raconte. Christophe Andelatte.
Une histoire de magot aujourd'hui. Le magot des Raspini. À Nice, au début des années 2000, les Raspini, mère et fils, sont censés cacher un gros bas de laine, en liquide, dans leur maison qui domine la baie des Anges. Et on va les tuer pour ça. Trois oiseaux pas très futés qui vont aller jusqu'à enterrer la mère vivante. Une histoire que nous allons débriefer avec celui qui était à l'époque le commandant divisionnaire de la PJ de Nice, Bernard Mascarelli. J'ai écrit cette histoire avec Okis, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Andelatte.
Je vous emmène sur les hauteurs de Nice, la colline de Guéraud, au tout début du siècle, c'est-à-dire en 2002. Au mois de mars, devant une belle maison, la villa de la famille Raspini. Enfin la famille, la mère Francine et son grand dadé de fils Marc. Ils ne sont plus que deux à vivre là-dedans, cloîtrés comme des ermites, avec leur chat. Et si je vous ai emmené là, c'est parce qu'il y a un petit souci. Ça fait 5 jours qu'on ne les a pas vus, les Raspini. 5 jours que les volets sont fermés. Et venez, venez, tendez l'oreille. C'est leur chat. Derrière la porte, il miaule à fendre l'âme. Et il n'y a pas que ça. Normalement, tous les matins, la mère va voir le jardinier, Kamel. Mais là, ça fait 5 jours qu'il ne l'a pas vu. Au début, je me suis dit, bon, il est spécial, la mère Raspini. Et donc, je me suis pas trop inquiété. Mais là, 5 jours, ils sont pas partis, ils partent jamais. Et si par miracle ils étaient partis, ils m'auraient confié le chat à garde, et ça c'est sûr. Hein. Alors Kamel appelle les pompiers qui débarquent 5 minutes plus tard. Il force la porte, il pénètre dans la maison, au passage le chat en profite pour se carapater. Y a quelqu'un ? Y a quelqu'un, c'est les pompiers ! Ils font le tour de la villa, personne. À partir de là, la police judiciaire de Nice prend le relais. Elle lance une recherche dans l'intérêt des familles. Et elle débute une petite enquête en commençant évidemment par se rencarder sur les deux disparus. Drôle de duo, ces deux-là. La mère d'abord, Francine Véran Raspini, 71 ans. Elle est rentière, héritière d'une famille niçoise qui a fait fortune dans les fleurs, les œillets plus précisément. Pas antipathique, hein, d'après ce qu'on dit, mais très réservé. Et alors, une rapia, une radine, un grippe-sous redoutable. Elle vit donc dans cette villa avec son fils Marc, Marc Raspini, 47 ans. Un grand dadé de presque 2 mètres, qui, dit-on, a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, ce qui n'est pas un déshonneur, hein, loin de là. D'après ce qu'on dit, sa mère le considère comme un gamin. Elle le surprotège. Oh, c'est pas la première. Et étrangeté, alors que la maison est gigantesque, le fiston loge dans un mobilhome au fond du jardin. Et lui non plus ne travaille pas. Enfin, il semble qu'il fasse le chauffeur pour ce moment. C'est lui qui conduit leur Renault 11, qui au passage a disparu. Alors les Raspini sont-ils riches? Ah ben oui, la mère a des appartements dans le centre de Nice qu'elle loue. Et puis regardez la villa, vue générale sur la baie des Anges. Et un parc de 4 hectares. Avec une bizarrerie tout de même, mais je vous ai dit que la maman est un rapia de première. Ce parc, elle l'a rentabilisé à fond. C'est-à-dire qu'elle l'a divisé en 30 petites parcelles qu'elle loue. Soit comme potager, soit comme habitation en y collant un petit cabanon dessus. Et les loyers, en liquide, bien sûr. Pour les impôts, pas vu, pas pris. L'ensemble lui rapporterait, à la louche, hein, dans les 12 000 euros par mois. En paille d'armoire, hein, en oseille. Et qu'est-ce qu'elle en fait de ce pognon? Eh bien, au moment où elle vient de disparaître, il n'est pas inutile de se poser la question. Parce que les Raspini ne voyagent jamais. Ils ne sortent jamais. Ils ne reçoivent jamais. Personne n'est jamais rentré chez eux depuis la mort du père. Et c'était il y a très longtemps. Vous sentez tout le mystère qui flotte autour de cette disparition ? Au début, les policiers se disent que peut-être le fiston qui est un peu instable a pété les plombs, qu'il a emmené sa mère quelque part, qu'il l'a tué, qu'il s'est peut-être tué lui-même. Alors au cas où il serait interné, ils font le tour des hôpitaux et des cliniques psychiatriques. Rien. Et donc ils en reviennent au magot, aux 12 000 euros par mois accumulés depuis des années. Ça doit faire un sacré pactole. Il est planqué où, cet argent ? Pas à la banque, puisque c'est du black. Les flics de la crime de Nice décident de fouiller la maison. De l'extérieur, belle villa. Une vue sur la mer a coupé le souffle. Bon, la maison est un peu décatie par manque d'entretien, mais elle a de beaux restes. En revanche, l'intérieur, mon Dieu, le capharnaüm. Des objets dans tous les coins, des meubles délabrés et dépareillés, l'évier rempli de vaisselle, la poubelle qui déborde. Et dans la chambre de la mère, du linge en vrac, partout sur le sol. Mais pas d'argent, pas un centime. Bon ben, allons voir le mobilhom du fiston, Marc, au fond du jardin. Tiens, il y a le carton d'emballage d'un ordinateur, mais il n'y a pas d'ordinateur. Et puis sur un meuble, il y a un mégot de cigarette, alors que le fils ne fume pas. Mégot que les flics glissent immédiatement dans un sachet plastique pour analyse ADN. Quand ils quittent la villa, les policiers niçois ont le sentiment que les Raspini ont été enlevés. Et ce sentiment se précise quand assez vite, on retrouve la Renault 11 des Raspini sur un parking tout près de l'aéroport. Les clés dans la boîte à gants. Les policiers vérifient les listes d'embarquement de tous les avions partis de Nice depuis 5 jours. Pas de traces de la mère et de son fils. Entre-temps, ils se sont fait remonter la fadette de Marc, c'est-à-dire le relevé détaillé de son téléphone portable. Oh ! Ça alors ! Sous ses allures de dadé un peu coincé, Marc, jusqu'à sa disparition, appelait une fille tous les jours. Une certaine Katia, qui s'avère être une prostituée bulgare. « Vous savez, Monsieur Marc, il était bon client, hein ? Plus fidèle client de moi, hein ? Il était drôle, Monsieur Marc, il me faisait des cadeaux, comme si j'étais ses fiancés. Il m'appelait plusieurs fois par jour. » Il était un peu jaloux aussi, hein, de mes autres clients. Et elle confirme que ça fait un bon moment qu'il ne l'a pas appelé. Les policiers retournent à la villa pour interroger le jardinier, Kamel, qui vit dans l'un des cabanons.
J'ai bien une idée, moi. Un locataire. C'est l'un des derniers arrivés. Un jour, il s'est pris la tête avec elle pour une facture d'électricité qu'il trouvait trop élevée. Alors, à ce moment-là, elle a menacé le maître dehors. Et il s'appelle Coban, Philippe. Philippe Leblanc. Et, bon, ce qui me fait penser qu'il n'est pas net, c'est qu'après, il est venu me voir. Et il était très, très en colère. Et il m'a dit, texto, hein, tiens-toi à l'écart de tout ça, mais je vais m'occuper d'elle.
S'occuper d'elle ? Les policiers se rencardent tout de suite sur cet oiseau. Pour découvrir d'abord que Leblanc, ça n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Dubois, Philippe Dubois. Il a 34 ans et il a un casier judiciaire long comme le bras. Alors où est-il, ce Philippe Dubois, dit Leblanc ? Là, tout de suite, les policiers niçois n'ont pas vraiment le temps de se lancer à sa recherche, parce que ils viennent de recevoir un coup de fil de la BNP, la banque des Raspini.
Dites, c'était pour vous signaler que le compte de Madame Véran Raspini, là, vient d'être débité de 2 chèques. Oui, pour un montant total de 30 000 euros.
Mais qui a fait ça ? Un abruti ?
Parce qu'un chèque, on sait forcément qui l'a encaissé. Ça prend 5 minutes. Et d'ailleurs, voilà la réponse. Ils sont 2 à avoir encaissé ces chèques. Et dans la foulée d'ailleurs, ils ont retiré tout l'argent de leur propre compte en banque, en liquide. Patrick Gauvin, 52 ans, et son fils Laurent Gauvin, 22 ans. Les flics passent leur blase au fichier. Ils sont connus. Ils sont connus pour des délits de moyenne importance, mais ils sont connus. Et voilà 2 suspects de plus. Et oui, de plus, parce que l'autre, là, le locataire Philippe Dubois, dit Leblanc, n'est pas encore sorti de l'affaire. Et vous savez pourquoi? Parce que ils se connaissent, tous les 3. Philippe Dubois sort les poubelles de l'immeuble dont Patrick Gauvin, le père, est le concierge. Ils sont amis, tous les 3. C'est un trio. Un sacré trio de suspects. Les policiers décident de ne pas les arrêter tout de suite. Ils les mettent sur écoute. Et ils attendent que ça bouge. Et ils font même mieux que ça. Ils les provoquent. Jusqu'ici, la disparition des Raspini était restée secrète. Alors les policiers appellent Nice Matin.
Ça va? Dis-moi, j'ai peut-être une affaire pour toi. Voilà une femme et son fils, là, madame Raspini et son fils Marc, qui ont disparu.
Disparu? Disparu, mais comment, en fuite?
Non, pas du tout. On pense qu'ils auraient été enlevés. Mais bon, je peux pas t'en dire plus pour le moment. Sache seulement qu'ils habitent une villa sur la colline Guéraud, une belle villa. À mon avis, il y a une histoire d'argent là-dessous.
Tu me rappelles quand t'en sais plus?
Mais bien sûr, mon ami, bien sûr.
Et le 13 avril, la disparition des Raspini fait la une de Nice Matin. L'effet est immédiat. Et les policiers n'en perdent pas une miette.
Allô, Laurent? C'est papa. Dis, tu as lu la première page de Nice Matin? Non, pourquoi? Achète-le, tu vas voir.
À ce moment-là, sans doute, le fils va acheter le journal. En tout cas, dans la foulée, il appelle Philippe Dubois, manifestement méfiant.
Tu me diras tout ça quand je passerai te voir, hein. Parce que les communications, tu sais...
Une demi-heure plus tard, Philippe Dubois appelle Kamel, le jardinier. Le jardinier de madame Raspini.
Kamel? T'as vu le journal, Kamel? Ah non, j'ai pas vu le journal. Madame Raspini a disparu, figure-toi. Oh, c'est triste, ça. Non, Kamel, moi, je trouve pas ça triste du tout, mais... Dis, appelle-moi si la police vient te voir, d'accord? D'accord.
Kamel n'a pas l'air d'être du tout dans le coup, parce qu'il joue le jeu. Il est temps de passer à l'action. Le 16 avril 2002, plus d'un mois après la disparition des Raspini, les policiers débarquent à la cité des Moulins pour coffrer les Gauvin, père et fils. Réaction immédiate de Dubois au téléphone. Il appelle sa compagne.
Geneviève? Dis, Geneviève, ce matin, ils ont arrêté Patrick et Laurent. Ah ouais? Oui. Tous les 2. Mais il n'y a pas à s'inquiéter, hein. Ils me balanceront jamais, t'inquiète pas. C'est sûr que c'était une connerie, ces chèques, mais bon, maintenant c'est à eux de voir. Hein. Moi, je leur avais conseillé de pas le faire. Hein.
Intéressant. Geneviève, la chérie de Dubois, a l'air au parfum. Et il localise l'appel de Dubois. Il est dans une station-service à l'ouest de Nice, où ils vont immédiatement l'interpeller. Et ensuite, ils vont cueillir Geneviève chez elle. À partir de maintenant, ils sont 4 en garde à vue. Sauf qu'évidemment, un mois après, ils ont eu tout le temps de se mettre d'accord sur ce qu'ils doivent dire et ne pas dire. Et du coup, les Gauvin, père et fils, interrogés séparément, racontent la même farce.
Mais ces chèques, c'est Marc Raspini qui me les a donnés. Juste parce que il pouvait pas les encaisser lui-même. C'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin.
À part ça, ils n'ont rien à voir avec la disparition de la mère et de son fils.
Monsieur Gauvin, est-ce que vous savez qui est assis dans le bureau d'à côté? Je vous écoute.
Ben non. Non, je sais pas.
Dans le bureau d'à côté, monsieur Gauvin, il y a votre ami Philippe Dubois. Vous le connaissez, Philippe Dubois?
Vous le connaissez? Bien joué. Et effet immédiat, le père et le fils servent une nouvelle version.
Bon, mais je vais tout vous dire. Philippe Dubois, un jour, il nous a proposé de faire en couche les Raspini. Mais moi, avec mon fils, on a refusé, quoi. Bon, après, le coup, il a dû le faire tout seul. Et après, ben, il nous a un peu forcé à encaisser les chèques pour lui, quoi. Nous, on avait peur, quoi. C'est pour ça qu'on l'a fait. On a peur de cela, parce que il est très violent, le gonzé. Voilà.
Pauvre Dubois. Il se croyait à l'abri, ils ont mis une minute à le balancer. Et lui, d'ailleurs, Dubois, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, rien. Il ne sait pas que les autres l'ont chargé, alors il nie tout en bloc. Il n'a rien à voir là-dedans, mais les policiers ont une carte dans leur jeu. L'enregistrement de sa conversation avec son amie Geneviève.
Monsieur Dubois, je vais vous faire écouter quelque chose. Et normalement, vous allez reconnaître les voix.
Mais il n'y a pas à s'inquiéter, hein. Ils me balanceront jamais, t'inquiète pas. C'est sûr que c'était une connerie, ces chèques, mais bon, maintenant c'est à eux de voir, hein. Moi, je leur avais conseillé de pas le faire, hein.
Alors, monsieur Dubois, c'est votre voix, ça, non? Vous étiez donc au courant du vol de ces chèques à madame Raspini, n'est-ce pas? Je vous écoute, monsieur Dubois.
Ouais, j'étais au courant. Mais moi, je savais pas qu'il venait de madame Raspini, comme vous dites. Ou de quelqu'un d'autre, ça. Ça, je ne savais pas, et d'ailleurs, ça m'a pas étonné, d'ailleurs, que les Gauvin piquent des chèques, hein. Ils sont tout le temps fauchés, ces deux-là.
Ils se donnent un rôle secondaire. Un type qui savait et qui n'a pas dénoncé. Rien de plus. Mais manque de peau chez lui, les policiers trouvent un ordinateur portable, pile la marque de l'emballage retrouvé chez les Raspini.
Mais c'est madame Raspini qui me l'a vendu. Pour 3 000 francs.
Et puis, il doit sentir que ça n'est pas trop crédible. Alors il veut bien reconnaître que c'est Patrick Gauvin qui le lui a donné. Voilà tout ce que les flics ont pu en tirer en 48 heures de garde à vue. Et c'est assez pour les mettre tous les quatre en examen pour enlèvement et séquestration, pour les envoyer en tôle. Mais vous noterez que aucun des quatre n'a dit où étaient les Raspini, mère et fils. Et même s'ils étaient vivants ou morts. Alors une fois de plus, les flics décident de mettre à contribution les journalistes de Nice Matin.
Ça va? Dis-moi, je vais t'envoyer la photo de 4 gonzes, là. Enfin, il y a une gonzesse, le lot. Ils seraient dans le coup pour les Raspini. Tu pourrais les sortir, ces photos, là? Ça me rendrait service parce que, disons que j'espère que ça va déclencher le témoignage, tu vois. Et ils ont été mis en examen, hein.
Ça va bien faire bouger quelqu'un. Deux témoins qui ont vu les tronches des 4 dans le journal se manifestent. Ils connaissent Patrick Gauvin, le père.
Et bien Patrick, à la fin du mois de mars, il m'a dit un truc du genre « J'ai gagné 17 000 euros
On a fumé une mère et son fils qu'on a mis dans un trou. Moi, franchement, sur le moment, j'ai cru que c'était une connerie. Mais là, je me dis que peut-être c'était vrai, quoi. Ils les ont donc tués et enterrés. Et maintenant, il faut les trouver, ces corps. Le 30 avril, le juge d'instruction ordonne une fouille minutieuse de la propriété des Raspini, avec des chiens dressés pour sentir les cadavres. On les fait passer dans tous les sens sur les 4 hectares. Nada. En revanche, il y a une bonne nouvelle. Le mégot de cigarette retrouvé dans le mobilhome de Marc. Il y a un ADN dessus.
Et cet ADN, après comparaison, eh ben, c'est l'ADN d'une mise en examen Philippe Dubois, hein, c'est certain.
Ah tiens! Alors il pourra toujours dire que, comme il habitait la propriété, il l'a laissée là un jour. Mais c'est pas tout. Parce qu'un expert en écriture affirme que c'est lui aussi qui a rempli les chèques. Il va falloir qu'il arrête de se donner un rôle secondaire, celui-là. Monsieur Dubois, alias le Blanc. Et les mois passent. Et le 28 février 2003, donc presque un an après la disparition des Raspini, Laurent Gauvin, le fils, écrit au juge d'instruction. Il prend tout sur lui. Enfin tout. Philippe Dubois n'était pas là. Il est pour rien dans cette affaire. Et mon père Patrick non plus. Il n'a fait que conduire la voiture. Mais il y avait un troisième homme dont je ne peux pas révéler l'identité par crainte de représailles. C'est pour cette raison que je ne peux pas non plus vous indiquer où sont enterrés les corps, de peur que les policiers découvrent des éléments qui trahissent l'identité de cette troisième personne. Malin, le lynx! Et bien sûr, c'est le troisième homme qui a tué. Une semaine plus tard, le jeune Gauvin écrit une deuxième lettre au juge d'instruction. Il a changé d'avis. Il veut bien emmener les policiers là où les Raspini sont enterrés. Alors, on le sort de la prison de Nice, on le met dans une voiture, et un convoi dans lequel on retrouve des policiers, le médecin légiste, le juge d'instruction et le procureur, prend la direction d'une colline à l'ouest de Nice. C'est là. Arrêtez-vous. Laurent Gauvin indique un carré dans un sous-bois. Il est 14 heures. Les policiers commencent à creuser. Et c'est pas facile, hein. La terre est dure, elle est sèche, elle est pierreuse. Au bout d'une heure, le trou atteint 50 cm de profondeur. Et une heure plus tard, 60 cm de profondeur. Et toujours rien. Mais le juge a remarqué que plus on creuse, plus Laurent Gauvin blêmit. Et maintenant même il transpire.
Allez-y, continuez à creuser.
Le trou atteint maintenant 70 cm de profondeur. Et là, apparaît une chaussure. Et une demi-heure plus tard, deux corps, tête bêche, imbriqués l'un dans l'autre. Francine et Marc Raspini. La scène est terrifiante. Ils ont les chevilles entravées par du cerflex. Le fils a un bâillon sur le visage. Et la mère a la main plaquée sur la bouche et sa bouche est ouverte. Comme si elle avait voulu empêcher la terre d'entrer dedans. Comme si elle avait été enterrée vivante. Sur le bord du trou, le jeune Laurent Gauvin est au bord du malaise.
On n'avait rien contre les Raspini. On voulait leur argent, c'est tout. On aurait pu juste les cambrioler, mais ils bougeaient jamais de chez eux. Alors il a fallu les tuer.
Le lendemain, évidemment, le juge a des questions à lui poser. Et le jeune Laurent Gauvin sert une nouvelle version.
sans doute plus proche de la vérité, mais qui n'est peut-être pas toute la vérité. La première chose qu'on a faite, c'est de creuser le trou. Ça, c'est assez rare. En général, les assassins creusent le trou quand ils ont le cadavre sur les bras. Ils n'avaient donc pas de doute sur l'issue. Après, on a pris la route de la villa. On avait un fusil, une kalachnikov et des cagoules dans la voiture. Quand vous dites « on », c'est qui « on » ? Eh ben moi, et puis l'homme dont je peux pas vous dire le nom, et puis mon père. Mais mon père, il est resté dans la voiture. Et moi et l'autre, on est monté vers la villa à travers le parc. Il dit qu'ils ont commencé par Marc, le fils, dans son mobil-homme. Ils l'ont attaché à une chaise et ils l'ont étranglé tout en lui plongeant la tête dans la baignoire. Ils ont roulé son corps dans un drap et ils l'ont mis dans le coffre de la Renault 11. Et après, avec son trousseau de clés, ils sont entrés dans la villa. La mère Raspini était au lit. On a essayé de la faire parler. On lui a dit, dis-nous où est le fric, où on te bute. Mais elle a rien lâché. Alors on a fouillé, quoi. On cherchait le coffre, le magot. On l'a pas trouvé. Alors on lui a mis une taie d'oreiller sur la tête et on l'a forcé à nous suivre jusqu'à la voiture. Et quand on est arrivé à la voiture, d'ailleurs, mon père s'était endormi. C'est vous dire s'il était pour rien. Et ensuite, ils les ont emmenés au bord du trou. Ils ont poussé la mère la première et le fils par-dessus. Donc vous avez enterré Madame Raspini vivante. Non. Non, l'autre, il lui a tiré une balle. J'ai pas pu regarder, mais j'ai entendu qu'il disait « Elle est raide ». Donc, logiquement, le légiste doit trouver une balle dans le corps de la mère.
Non. J'ai strictement rien trouvé, monsieur le juge. Et évidemment, un an après, le corps était très dégradé, mais il n'y avait pas de balle. Hein. En revanche, il y a des traces de coups sur le visage. Hein.
Il aurait pu se douter, le fils Gauvin, qu'on ne retrouverait pas cette balle. Mais quel neuneu! En revanche, il n'a jamais parlé de coups. Hein. Donc, ils l'ont bien enterrée vivante. C'est de la barbarie à l'état brut. Le procès devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes s'ouvre le 10 juin 2006. Il est bizarre d'ailleurs ce procès, parce que il n'y a personne pour pleurer les Raspini. Ils n'avaient pas de famille proche, ils n'avaient pas d'amis non plus. Et donc sur le banc des parties civiles, il y a seulement deux rangées de cousins et de cousines éloignées qui attendent l'héritage et rien de plus. À part ça, on en reste au scénario improbable, selon lequel le père était dans la voiture, Laurent est monté à la villa avec le troisième homme, et le troisième homme, c'est pas Philippe Dubois. Et puis, les jours passant, le récit s'effrite un peu, et Dubois apparaît de plus en plus comme étant le troisième homme. Et là, Laurent Gauvin, le fils, demande une suspension d'audience.
Monsieur le Président, je voudrais parler seul avec mon avocat, s'il vous plaît.
On se dit, c'est le tournant de ce procès. Il va balancer Dubois. Mais quand il revient, Laurent Gauvin demande la parole.
Je vais vous donner l'identité du troisième homme. Le troisième homme, eh ben c'est le jardinier, c'est Kamel.
Parle ! Personne n'y croit. Et d'ailleurs, le président a souri, tout le monde l'a vu. Enfin, Kamel, c'est le seul qui avait de l'affection pour Madame Raspini. Le troisième homme, c'est Philippe Dubois, voilà ce que tout le monde pense. Et les jurés aussi, manifestement. Laurent Gauvin, Patrick Gauvin et Philippe Dubois sont tous les trois condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Ils font appel, ça va de soi. Et je vous épargne le deuxième procès, ils gagnent tous un peu. Philippe Dubois et Laurent Gauvin, le fils, prennent 28 ans. Et Patrick Gauvin, le père, en prend 25. Mais ça n'est pas totalement fini. Qui a hérité du magot des Raspini? Le notaire a embauché un généalogiste qui a identifié 12 cousins plus ou moins éloignés. Et pour répartir l'héritage, il a fallu trancher un débat. Qui, de la mère ou du fils, est mort en premier? Selon le dossier d'instruction, ça vous l'avez compris, c'est le fils qui est mort en premier, puisque la mère a été enterrée vivante. Dans ce cas-là, c'est une cousine du côté du fils qui hérite de la moitié, et tous les autres cousins se partagent l'autre moitié. Mais tous les autres ne l'entendent pas de cette oreille. Alors ils saisissent le tribunal civil, qui rend une décision assez étonnante. Ils tranchent que d'habitude, en général, une mère meurt avant son fils. Et c'est cette logique qu'il retient. Et donc le magot des Raspini est divisé entre les 12 cousins. Enfin, la maison, les appartements et les comptes en banque. Parce que le bas de laine en liquide, on ne l'a jamais retrouvé. Jamais. Allez savoir si le trio ne l'a pas mis de côté. Enterré quelque part pour le jour où ils sortiront. Je vous ai raconté aujourd'hui l'enquête sur l'assassinat en mars 2002 de Francine et Marc Raspini, tués à cause du magot qu'ils étaient censés cacher chez eux en liquide. Une enquête qui s'est conclue par la condamnation d'un trio de pieds nickelés. Une histoire que je vais débriefer maintenant avec le commandant divisionnaire de la PJ de Nice à l'époque, Bernard Mascarelli, qui est aujourd'hui responsable du centre régional de formation de la police nationale à Nice. Alors, monsieur Mascarelli, on peut peut-être commencer par le verdict. Il les met, le premier, tous les trois à égalité, le second verdict en appel leur donne des peines légèrement différenciées. Est-ce que ça recouvre l'idée, en tout cas, que vous vous étiez fait de cette affaire?
Oui, tout à fait. On avait une espèce de hiérarchie qui s'était mise en place. C'est vrai que le père Gauvin était celui dont le rôle, même minimisé par son fils, était quand même le rôle le moins important.
Donc il méritait légèrement moins que les deux autres.
Oui, si vous voulez. Non, les deux jugements sont conformes avec la réalité de l'enquête.
Pour vous, quel est le rôle exact de Philippe Dubois? Est-ce que c'est l'initiateur de tout ça?
Oui. C'est l'initiateur, c'est lui qui était sur le site, c'est lui qui a découvert la façon de vivre de Madame Raspini et de son fils. C'est lui qui avait loué un cabanon et qui connaissait vraiment les itinéraires, la façon de vivre de Madame Raspini, le fait qu'on pouvait pas faire un casse chez les Raspini puisqu'ils étaient tout le temps là, qu'il fallait faire au moins une agression à domicile, les saucissonner. Et le risque, c'était d'être reconnu, parce que lui, il était connu par Madame Raspini, avec laquelle il s'était déjà heurté. Il était connu par le fils, et l'enlèvement était la seule possibilité pour les sortir de là et pour pouvoir prendre la main.
Son moteur, c'est quoi? C'est la vengeance ou la vengeance?
Non, c'est l'argent. C'est l'argent. Je pense que le moteur de la vengeance pour la facture EDF, non, ça tient pas. Non, c'est la cupidité. Hein. Il a vu qu'il y avait de l'argent dans cette façon de faire. On venait de passer en mars 2002, on venait de passer des francs à l'euro.
Oui.
Il devait se dire que Madame Raspini devait avoir des francs qu'elle n'avait pas pu changer, puisque depuis un contrôle fiscal, elle ne déposait plus son argent à la banque.
Mm-hmm.
Donc voilà, si je pense qu'il pensait qu'il y avait au moins des francs quelque part, et puis des euros, en tout cas on en a trouvé nous, puisque les paiements des loyers s'effectuaient en liquide dans la boîte aux lettres au fil des jours.
Donc il y avait des enveloppes, quoi.
Oui.
Mais le magot,
Il est où, le magot? Ils sont sortis, là, évidemment, les Gauvin et Philippe Dubois. Ils ont été condamnés, ils étaient en détention depuis 2002, condamnés à entre 25 et 28 ans. Au bout de 15 ans, probablement, qu'ils sont dehors. Est-ce que quelqu'un les suit pour savoir s'ils vont déterrer un sac quelque part?
Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais naturellement, les choses se font toujours. Hein. On peut repartir éventuellement sur une nouvelle enquête. La police judiciaire, c'est un travail de groupe, hein. C'est un travail d'équipe. Il y a toujours des gens qui sont en fonction, qui peuvent redémarrer une enquête avec des nouveaux faits.
Donc on les suit. Alors, évidemment, j'ai une curiosité, parce que moi je raconte l'histoire de ces gens, mais je ne les connais pas. Et c'est ma difficulté quand je veux les jouer dans les séquences d'aveu, etc. Mais vous, vous les connaissez. Philippe Dubois, à quoi il ressemble?
C'est un monsieur qui est assez meneur, qui a un certain charisme, qui a une violence qui n'est pas négligeable.
Il est sanguin, quoi.
Oui, c'est un sanguin. Il a son passé l'atteste, hein, vous l'avez rappelé, il avait son casier judiciaire. Mmh. Il a eu, si vous voulez, des incidents de violence sans arrêt. Moi, je me rappelle quand il est détenu, il avait sans arrêt des demandes pour qu'on aille vérifier des choses. Chaque fois qu'on vérifiait, on tombait sur une affaire. Un ancien employeur qui n'avait pas voulu lui régler la totalité des sommes, il l'avait menacé. Dans la foulée, les locaux de l'employeur avaient brûlé.
Ouais.
C'était un chemin parsemé de violence.
Mais c'est pour ça que je vous ai dit que peut-être la vengeance pesait. L'idée de se venger de la facture EDF n'était pas négligeable, parce que c'est un caractériel, quoi.
Ah oui, là après psychologiquement, ouais, ça dépasse un petit peu nos spécialités en police judiciaire.
Ne soyez pas modeste, parce que dans cette enquête, vous avez fait œuvre de pas mal de psychologie. Alors les deux autres, les Gauvin, eux, ils ont l'air neuneux, parce qu'aller encaisser des chèques, c'est quand même se dénoncer à la PJ.
Ouais, mais bon, si vous voulez, au début, ils étaient partis sur l'idée qu'ils avaient fait des travaux, on leur avait remis un chèque, et puis voilà, ils l'avaient encaissé. Bon, c'est sûr qu'ils l'avaient immédiatement encaissé en liquide, hein, ils n'avaient pas laissé traîner l'argent sur le compte. Mais oui, on n'est pas dans le fut-fut, hein, là, nous sommes d'accord. Hein, nous
avons il les a instrumentalisés, Philippe Dubois.
En tout cas, il y a de façon incontestable, c'était lui le chef. Hein. Mmh. C'est lui qui leur a mis la pression. Mais ils le reconnaissent eux-mêmes. Hein. Ils disaient qu'ils avaient peur de Dubois. Hein. Donc,
Alors, il y en a une dont on a perdu le fil dans mon récit, je le reconnais, c'est Geneviève. Je n'ai pas réussi à savoir ce qu'elle était devenue. Elle a été écartée à un moment?
Oui, elle a été écartée dans l'instruction. Le magistrat a pensé qu'il n'y avait pas assez contre elle d'éléments susceptibles de pouvoir la renvoyer en cour d'assises. Mmh. Elle était certes au courant, hein, puisque ça ressortait des écoutes, c'est ressorti de ses... Quand il y a ce que vous avez très bien narré au début, l'épisode Nice Matin et puis les coups de fil qui se succèdent dans l'équipe, elle est au courant, hein, c'est immédiat, on sait. Mais bon, le fait de savoir... qui plus est, a posteriori des faits, n'en fait pas une complice au moment des faits.
Mmh. Alors justement, l'épisode de Nice Matin, ça a pu surprendre. C'est-à-dire que ceux qui ne savent pas découvrent que, oui, les flics de la PJ, ça utilise la presse, c'est du donnant-donnant, quoi.
Alors, c'est du donnant-donnant, c'est de l'information, hein. Les Raspini avaient disparu, il était important que tout le monde le sache, et puis ça allait nous aider, puisqu'il pouvait y avoir des gens, du coup, qui pouvaient nous apporter des précisions. On était dans un temps encore assez proche de cette disparition. On avait l'espoir qu'ils avaient pu être enlevés et que quelqu'un les avait dans un coin. Hein. C'était pas complètement mort. Enfin, on pensait qu'ils n'étaient pas forcément décédés.
Mmh, mmh. C'est courant, ça. Enfin, vous avez toujours comme ça des contacts dans le journal local pour faire passer des messages?
Alors, les journaux locaux ou les journaux nationaux, forcément, il y a des relations.
Ouais.
Il y a des journalistes spécialisés, hein, ouais, dans le fait divers, et il y a des échanges, mais c'est pas un marché, c'est pas...
Non, c'est de l'amitié, c'est ce que je disais.
Ouais, ça peut entraîner des relations amicales.
Alors, moi je trouve que dans cette histoire, il y a quand même un moment qui était assez bouleversant, c'est la découverte de ces deux corps. Vous étiez là, vous?
Oui. Oui, c'est plus que bouleversant. Hein. Et je me rappelle quand Laurent Gauvin se retourne au moment où on avance, ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus... on piétinait, on enlevait de la terre, il ne se passait rien. Et puis tout à coup, il se remet à blêmir. Et puis on arrive sur les corps. Quoi. Là, on arrive alors d'abord un petit peu avec la pelle et la pioche. Et puis rapidement, on se transforme des archéologues la grotte de Terramata, et puis voilà, on va y aller doucement pour pouvoir déterrer les corps. Les corps étaient enfouis dans un terrain argileux, plein de galets, des collines niçoises, un peu du Poudingue, et ils s'étaient momifiés en un an.
Ouais.
Ils avaient été complètement desséchés.
Ouais.
Et oui, la position des deux corps, le fils sur la mer, c'était assez... C'est une image qui reste, forcément.
Parce que vous en avez vu des vertes et des pas mûres dans votre carrière, mais cette image, elle vous reste.
Cette image reste, oui.
La main sur la bouche de la mer.
Oui, oui, c'est après, ce sont les constatations, ce que nous on a découvert donc en les déterrant, donc le bandeau qui était plus sur le visage, la main qui était là, le fait que, comme vous l'avez très bien dit, il n'y avait pas d'impact de balle sur le corps de la mère, contrairement à ce qui avait été déclaré par Laurent Gauvin, ni d'impact, ni de plaie transficiante ou même de projectile découvert avec un appareil détecteur de métaux par la suite. Il n'y avait pas de balle, donc elle a été enterrée, elle était vivante, quoi. Et ça, c'est quand même ça ajoute une dimension. Et en plus, si vous voulez, dans les constatations, c'est réaliste, quoi. C'est cette vieille dame avec sa main sur le visage, c'est terrible.
Je vous remercie infiniment. Monsieur Mascarelli, donc vous qui dirigez l'enquête de la police judiciaire de Nice à l'époque, vous êtes aujourd'hui, je le rappelle, responsable du centre de formation régional de la police nationale à Nice.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.